Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier.
Oui, tout à fait.
Le script d'une émission de radio qui s'appelle « La prière du lundi ».
Diffusée sur Radio Tam Tam Africa.
C'est ça. C'est présenté par Félicité Amaniara Vincent et la note d'intention, elle, donne tout de suite la couleur. Solennelle, apaisante, spirituelle. Notre objectif, ça va être d'explorer un peu ce qui se cache derrière ces mots, de comprendre comment ce texte essaye de donner un cadre, un sens, au début de la semaine pour son auditoire.
Et c'est un excellent point de départ, parce qu'il faut tout de suite se dire qu'on n'analyse pas un simple texte, un poème.
Non.
C'est la transcription d'une performance orale qui est pensée pour la radio. Et ce format, ben, il change tout.
Ah oui.
La radio, ça crée une connexion très directe, presque intime, même si des milliers de personnes écoutent en même temps.
C'est vrai.
Et ce qui m'interpelle, moi, dès le début, c'est ce grand écart, apparent en tout cas, entre le contenu qui est purement spirituel et le slogan de la station qui est martelé à la fin, Radio Tam Tam Africa, la voix du Sud, le pouvoir des faits.
Le pouvoir des faits.
Voilà. C'est presque un paradoxe. Et c'est ça, je pense, qu'on va essayer de démêler ensemble.
Oui, ce contraste est saisissant. Alors, entrons directement dans le vif du sujet avec l'ouverture. L'émission commence de façon très... très concrète, je cite « Bonjour à toutes et à tous, bon et productif lundi, chers abonnés de Radio Tam Tam Africa.
»
Ça m'a tout de suite frappé. On s'attend à une envolée lyrique et on nous parle de productivité.
C'est presque terre à terre.
C'est ça. C'est comme si on nous disait « C'est bien de prier, mais n'oubliez pas d'envoyer vos emails après. »
C'est une manière très habile de ne perdre personne en route, en fait.
D'accord.
Plutôt que de plonger l'auditeur dans un univers complètement abstrait, l'émission vient le chercher là où il est.
Au début de sa semaine de travail.
Exactement, avec ses préoccupations. Le productif lundi, c'est une main tendue. C'est un pont qui est construit entre le monde profane, celui des faits, du travail, et le monde sacré qu'on s'apprête à explorer. Ce n'est qu'après avoir établi cette connexion que le langage change.
Effectivement, juste après, la bascule est immédiate. Je reprends « Dans le silence du matin et la clarté retrouvée, nous élevons nos cœurs et nos consciences vers la source de toute vie. »
Voilà.
Là, on saute la présentatrice, installe une atmosphère. Elle crée une bulle de contemplation au milieu du bruit matinal.
Le décor est planté.
Le décor est planté, pour ce qui va suivre, c'est une invitation à faire une pause avant que la folie de la semaine ne démarre vraiment.
Et cette invitation est cruciale. Elle transforme un acte public, écoutez la radio, en une expérience potentiellement très personnelle. L'émission ne dit pas « écoutez ma prière », mais « élevons ensemble nos cœurs ». Il y a une dimension collective, communautaire.
On y revient.
On en revient à cette double identité. Un moment de spiritualité intime, partagé via un média de masse qui, lui, se réclame du pouvoir des faits.
C'est ça.
Comment ces deux univers peuvent-ils cohabiter sans s'annuler? C'est toute la question que cette introduction pose, assez subtilement.
Bon, alors entrons dans le dur de la prière elle-même. Et là, premier obstacle pour moi en lisant le script, le nom utilisé pour s'adresser au divin. On lit « Nous nous prosternons devant toi, Blaze ».
Blaze, oui.
Honnêtement, j'ai cru à une coquille la première fois. Ce nom, Blaze, ça sort d'où? Ça détonne complètement avec le ton très formel du reste.
C'est une excellente remarque. Et je pense que c'est probablement voulu. Ce nom, peu commun, presque singulier, crée un effet de surprise.
Ah!
Il suggère une relation personnelle, presque un nom intime donné à Dieu par la personne qui prie. Mais ce qui est fascinant, c'est que juste après cette touche très personnelle, le texte revient immédiatement à un registre beaucoup plus traditionnel et...
universel.
Secrète, pour s'inscrire ensuite dans une grande tradition reconnue.
C'est vrai. Et ce qui rythme tout le texte, c'est cette phrase qui revient comme un mantra, le refrain « Tu es saint, 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 ô Dieu, et pitié de nous par la Mère de Dieu ».
C'est le pilier.
C'est clairement le pilier de la prière. Et quand on regarde les demandes, elles sont toutes tournées vers l'intérieur. On ne demande pas une augmentation ou une nouvelle voiture.
Non.
La quête est ailleurs. Éclaire mon esprit, purifie mon cœur et ouvre ma bouche pour te prier. C'est une demande de transformation personnelle.
Absolument. Et ce refrain que vous citez, il est d'une richesse incroyable.
Ah oui.
Cette triple répétition « saint, saint, saint », elle n'est pas anodine. C'est un écho direct à l'une des plus anciennes et importantes acclamations de la liturgie chrétienne, l'hymne du Trisagion.
D'accord.
On le retrouve de la Bible, aux églises d'Orient et d'Occident. Et en ajoutant « par la Mère de Dieu », le texte s'ancre encore plus précisément dans une tradition probablement catholique ou orthodoxe, où l'intercession de Marie est centrale.
Donc, la répétition a une fonction.
Oui, la répétition n'est pas là pour faire joli. Elle a une fonction méditative. Elle est faite pour s'imprimer dans l'esprit, pour que l'auditeur puisse la fredonner mentalement plus tard dans la journée.
C'est un véritable outil spirituel portable, en quelque sorte.
C'est ça.
Et ça rejoint ce thème du réveil qu'on trouve juste avant. « Toi qui m'as réveillé du sommeil, Seigneur, éclaire mon esprit. » C'est plus qu'un simple constat. On dirait une demande pour que le réveil du corps s'accompagne d'un réveil de la conscience.
C'est une métaphore classique de l'illumination. Le passage des ténèbres du sommeil à la lumière du jour devient le symbole du passage de l'ignorance à la connaissance spirituelle. Mais juste quand on s'installe dans cette atmosphère douce, contemplative...
Le texte change.
Le texte nous envoie une décharge électrique.
Ah oui.
Juste quand on se sent apaisé, le ton change du tout au tout. On passe d'une prière douce à une phrase qui met un sacré coup de pression. Car le juge viendra soudainement et les actions de chacun seront révélées.
Voilà.
C'est assez intense pour un lundi matin, non? Vous mettez le doigt dessus. C'est l'élément eschatologique, c'est-à-dire qui touche à la fin des temps, au jugement dernier. Et ça, ça change toute la dynamique de la prière.
Complètement.
Elle n'est plus seulement un baume apaisant, elle devient un avertissement. Il y a soudain une urgence, une notion de responsabilité. Franchement, entendre ça en buvant son café, ça incite peut-être à être un peu plus patient dans les bouchons.
Ou à réfléchir à deux fois avant de mal parler à ses collègues, ça.
Exactement. La prière nous dit « Attention, la semaine qui commence n'est pas un jeu, vos actions comptent ».
Ça donne une toute autre profondeur. Ce qui me frappe aussi, au-delà des mots eux-mêmes, c'est la construction de l'ensemble. On dirait une véritable cérémonie en miniature, avec des étapes très claires.
Une structure, hein?
Oui. On a la salutation, la prière principale avec son refrain, et puis, juste avant la fin, une litanie toute simple, presque un murmure. « Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. »
La puissance de cette structure rituelle, c'est qu'elle offre un cadre. C'est reconnaissable, ça guide l'auditeur qui n'a pas besoin de se demander où on l'emmène.
C'est rassurant.
Et cette litanie, par sa simplicité, est un moment de vulnérabilité pure. Après les grandes envolées sur le juge et l'hymne angélique, on en revient à l'essentiel. Un cri du cœur, c'est très fort. Et ça s'inscrit dans ce contraste permanent du langage.
C'est-à-dire ?
Eh bien, d'un côté, on a ce vocabulaire très solennel, presque majestueux. Nous nous prosternons, hymne angélique, pour les siècles des siècles. Ces mots donnent du poids, de la beauté, une dimension historique à ce qui est dit. Mais de l'autre, les demandes essentielles sont d'une simplicité désarmante. Éclaire mon esprit, purifie mon cœur, aie pitié. Ce mélange rend l'expérience à la fois transcendante, plus grande que soi, et en même temps profondément intime.
Et ça permet de ne pas se sentir écrasé.
Exactement. On ne se sent pas écrasé par la solennité. On est plutôt invité à y participer.
J'avoue que je suis un peu perdu à ce stade. On a eu l'apaisement, puis cet avertissement presque angoissant sur le jugement. Comment est-ce qu'on est censé repartir de là pour attaquer sa semaine? Ça semble contradictoire.
Oui.
Comment le texte résout-il cette tension?
Alors la réponse est dans la toute dernière partie, la bénédiction finale.
D'accord.
C'est le moment où tout bascule et où tout prend son sens. L'animatrice dit que cette prière accompagne vos pas, éclaire vos décisions et fortifie vos œuvres tout au long de cette semaine. Vous voyez le mouvement ?
Oui. On passe de l'interne à l'externe.
Exactement. On passe de l'intérieur, l'esprit, le cœur, à l'extérieur. Les pas, les décisions, les œuvres. La prière n'était pas le but final.
C'était une préparation.
C'était la préparation. Le carburant spirituel pour la semaine à venir.
C'est la mise en application concrète. Et pour être sûr que le message passe, ça se termine par trois injonctions très directes, presque martiales. Restez aligné, restez éveillé, restez debout.
C'est court, percutant.
On dirait un ordre de mission.
Et ces trois phrases sont un résumé magistral de tout ce qu'on a entendu avant. Restez éveillé, c'est un écho direct au réveil spirituel et à l'avertissement sur le juge.
D'accord.
C'est un appel à rester conscient, vigilant. À ne pas retomber dans le sommeil de la routine. Rester debout, ça évoque la résilience, la force face aux épreuves, une posture de dignité face à la nuit de ce monde mentionnée plus tôt. Ce n'est pas une spiritualité passive.
C'est une spiritualité de combat.
C'est ça, une spiritualité de combat.
Et le premier, rester aligné.
Pour moi, c'est peut-être le plus important. C'est l'appel à la cohérence. L'alignement entre ce qu'on croit au fond soi et la manière dont on agit.
C'est l'idée que la prière du lundi matin doit se voir dans la façon dont on va mener une réunion le mardi après-midi.
Ou dont on va gérer un conflit le jeudi.
Voilà, c'est le pont final entre la foi et les faits. La prière qui a commencé dans le silence contemplatif se transforme en un véritable mandat pour l'action.
C'est fascinant. On est parti d'une simple prière radiodiffusée et on arrive à un véritable mode d'emploi spirituel pour la semaine.
Tout à fait.
Une structure complexe qui mélange apaisement, avertissement et finalement un appel à l'action. Ce mélange de spiritualité intime et de diffusion publique prend du coup tout son sens.
C'est une architecture remarquablement bien pensée. Et pour conclure, je pense qu'il faut revenir à la toute fin du document.
Oui.
Après le dernier mot, « Restez debout », le script indique l'outro de la station. Vous étiez à l'écoute de la voix primordiale sur Radio Tam Tam Africa, la voix du Sud, le pouvoir des faits.
Le slogan revient.
Le slogan revient comme le monde réel qui frappe à la porte de notre bulle de contemplation.
Le retour à la réalité, en quelque sorte.
Oui, mais ce n'est peut-être pas une opposition. Et c'est là, je crois, qu'on trouve l'idée la plus forte de ce document. Il ne nous dit pas de choisir entre la foi et les faits. Il nous montre comment, dans la vie de millions de gens, ces deux réalités cohabitent chaque jour. La prière du matin n'efface pas le besoin de faits, et les faits de la journée n'annulent pas le besoin de sens.
Les deux coexistent ?
Cette émission, par sa simple existence, nous dit que ce n'est pas une contradiction, c'est une reconnaissance de la double nature de l'expérience humaine. On a besoin des deux pour naviguer dans la complexité du monde. Ce texte, finalement, est peut-être un document sur la double citoyenneté de l'esprit humain, vous voyez ? Citoyen du royaume des faits et de celui de la foi.